À l'actu de ce 17 février, c'est avec Axel May et Bernard Poiret.
Bonjour Axel.
Bonjour Bernard, bonjour à toutes et à tous.
À la une de ce journal.
La consternation de la classe politique française. Hier, le philosophe Alain Finkielkraut a été victime d'insultes antisémites de la part de Gilets jaunes. Les Gilets jaunes dont le mouvement semble s'essouffler. Un sondage publié par le JDD montre que l'opinion publique se désolidarise de plus en plus. Un nouveau musée de la Libération à Paris, Europe 1 a pu le visiter en avant-première. Et puis, le football, Marseille enchaîne, Monaco se rassure. Ce sera le journal des sports dans une petite dizaine de minutes.
Europe 1. Il visait mes positions et mes déclarations sur Israël. Réaction d'Alain Finkielkraut après avoir été copieusement insulté hier en pleine rue à Paris par des gilets jaunes.
Alors que l'académicien rentrait chez lui dans le quartier Montparnasse, il a croisé des gilets jaunes et lorsqu'il s'est approché d'eux, voici ce qu'il a pu entendre.
Nous sommes le peuple. Il est venu exprès pour nous provoquer. Il est venu exprès.
Voilà, extrait d'une vidéo de l'agression verbale diffusée sur les réseaux sociaux. Des policiers sont alors venus au secours d'Alain Finkielkraut. La classe politique se dit, elle, consternée, Aurélie Herbemont.
Les injures antisémites dont il a fait l'objet sont la négation absolue de ce que nous sommes. C'est par ces mots qu'Emmanuel Macron condamne les insultes qui ont visé Alain Finkielkraut, fils d'émigré polonais devenu académicien français, symbole de ce que la République permet à chacun, écrit le chef de l'État. L'opposition aussi condamne sévèrement. Aux gilets jaunes qui ont injurié le philosophe, le président du Sénat réplique « Vous êtes la France de la haine, celle qui nous fait honte ». Laurent Wauquiez vilipende d'abjects crétins quand Marine Le Pen dénonce un acte détestable, illustrant selon elle la tentative d'infiltration des gilets jaunes par l'extrême gauche antisémite. La tête de liste insoumise aux européennes, Manon Aubry, condamne elle des insultes intolérables qui ne représentent rien du mouvement des gilets jaunes. Cette scène choquante en plein Paris intervient alors que tous les partis à l'initiative du PS manifesteront mardi pour dire « ça suffit » à l'antisémitisme. Tous les partis sauf le Rassemblement national qui n'a pas été invité.
Et pour ce 14e samedi de mobilisation, les gilets jaunes étaient, semble-t-il, un petit peu moins nombreux qu'il y a une semaine.
Le ministère de l'Intérieur a dénombré un peu plus de 40 000 manifestants dans toute la France. Ils étaient aux alentours de 50 000 il y a une semaine. 5 000 manifestants à Paris hier. Et ce matin, le journal du dimanche publie un sondage qui montre qu'une majorité des personnes interrogées estiment que le mouvement doit désormais cesser. Frédéric Dabi est le directeur général adjoint de l'IFOP, l'institut qui a réalisé ce sondage pour le JDD.
Jamais le soutien et la sympathie à l'écart de ce mouvement n'a été aussi peu élevé. 50% seulement des Français éprouvent du soutien ou de la sympathie à l'égard du mouvement des Gilets jaunes. Ils étaient jusqu'à 72-73% au début du mouvement. Et fait majeur, le soutien pur, qui était monté à 51% au début du mouvement, voire encore fin novembre, est tombé à 24%, moins 5 en à peine une semaine. C'est clairement le reflet de la lassitude de l'opinion par rapport à ce mouvement qui s'étire en longueur. Il y avait, il y a encore quelques semaines, un Français sur cinq qui se disait Gilets jaunes, ce qui pouvait même représenter une sorte de potentiel électoral en cas de liste Gilets jaunes. Là, désormais, à peine un Français sur 10, 11% se disent Gilets jaunes. Très clairement, les Français attendent que ce mouvement s'arrête, puisque pour la première fois, 52% des Français interrogés considèrent que maintenant, les Gilets jaunes doivent cesser leur mouvement et leurs actions. C'est 15 points de plus que ce que l'on mesurait il y a à peine un mois.
Frédéric Dabi, directeur général adjoint de l'IFOP avec Claudia Bertram.
Et top départ hier après-midi à Marseille de la marche des Gilets jaunes.
Quelques Gilets jaunes, ils ne sont qu'une dizaine pour l'instant, ont quitté la cité phocéenne pour rejoindre à pied Paris. Ils défendent notamment le référendum d'initiative citoyenne. Leur marche doit durer un mois et des manifestants marseillais sont venus les encourager. Reportage Stéphane Frangy.
Ils ont en commun un sentiment d'indignation. Certains sont ici par solidarité, d'autres pour témoigner de leur souffrance face aux lenteurs administratives.
Ils travaillent avec nous avec un stylo. On veut quelqu'un qui travaille avec nous avec un cœur. On est logé plus de 2 mois à l'hôtel. Et là, on ne peut plus. On rentre à l'hôtel, on a le moral zéro parce que tout notre habit par terre. On n'a pas des placards, on n'a pas une vie normale.
Lui n'aurait jamais imaginé faire partie de cette catégorie. Nabil pensait venir par sympathie, mais la veille, famille un effondrement de plafond dans son bâtiment, l'a forcé à grossir le nombre de familles délogées depuis le début de la crise.
On est sur 2 chambres, la moitié de la famille est au rez-de-chaussée de l'hôtel et moi et mon fils on est au 5e étage, donc c'est un peu un désordre pour toute la famille, c'est très dur. Très dur.
Dans un cortège rythmé par les prises de parole, ils sont nombreux comme Rafika Anachi de l'association Droit au Logement à pointer du doigt la mairie marseillaise.
Ils meurent ces femmes, ces enfants, descendez nous voir, vous n'avez pas honte, vous représentez qui est quoi finalement.
Et pour régler ce problème, tous demandent la réquisition des logements vacants dans la ville. Marseille, donc, Stéphane Frangier, Europe 1.
Et donc plusieurs manifestations hier à Marseille, ceux qui protestaient contre le mal-logement et puis ceux qui partaient en marche vers Paris. À noter que les mobilisations de Gilets jaunes sont également programmées ce dimanche un peu partout dans le pays et notamment dans la capitale. Dans un instant, la suite de ce journal, les confidences du président de la Conférence des évêques de France. Et ce, à quelques jours du sommet mondial à Rome, sommet consacré à la pédophilie dans l'Église. A tout de suite.
Il est 7h06 sur Europe 1. Suite de l'info avec Axel May et Bernard Poiretz.
À partir de jeudi prochain à Rome, le Vatican organise un sommet mondial sur la pédophilie au sein de l'Église catholique.
C'est une première du genre, ce sommet. Nos confrères du journal du dimanche ont rencontré Mgr Georges Pontier, le président de la Conférence des évêques de France, assistera bien entendu à ce sommet au Vatican. Écoutez la journaliste du JDD, Anne-Laure Barré. Elle estime que Mgr Pontier reconnaît qu'il y a eu un silence dans l'Église face à ces scandales sexuels à répétition.
Il esquisse une forme de mea culpa. Il dit que c'est le scandale qui a fait évoluer l'Église. Plus précisément, Mgr Pontier dit « on ne peut plus rejeter la faute, dire que ce sont les médias ou le monde extérieur qui en voudraient à l'Église ». Il ne dit pas qu'il y a eu un système organisé pour étouffer ces crimes et ces agressions. Par contre, il reconnaît qu'il y a eu un silence systémique dans l'Église. Il esquisse des propositions. On ne sait pas du tout si ces propositions elles vont être retenues, mais elles semblent vraiment intéressantes. Il se dit, lui, à titre personnel, notamment prêt à réfléchir à un allongement du délai de prescription. Donc ça, c'est assez important. C'est réclamé par de nombreuses victimes.
Notre consoeur Anne-Laure Barré du JDD. Aux États-Unis, le sénateur Bernie Sanders serait sur le point d'annoncer sa candidature à la présidentielle de 2020. Selon le site internet d'information Politico, Sanders, 77 ans, a enregistré une vidéo dans laquelle il fait cette annonce. Il fut le rival d'Hillary Clinton aux primaires démocrates de 2016.
Et puis à Paris, il y a un nouveau musée de la Libération.
Il sera officiellement inauguré le 25 août prochain à l'occasion du 75e anniversaire de la libération de la capitale. Le musée actuel situé au-dessus de la gare Montparnasse va donc être déplacé sous la place d'Enfer Rochereau. L'ordre d'Autriche a pu le visiter en avant-première pour Europe 1.
À 20 mètres sous terre se trouve le haut lieu de commandement des forces françaises de la région parisienne, dirigé alors par le colonel Roll. C'est dans cet abri de défense que se négocie la libération de Paris en août 1944. Un lieu stratégique protégé par une lourde porte en métal, aujourd'hui toute rouillée, décrit Sylvie Zedman, la directrice du musée.
Cette porte est une porte anti-souffle, parce qu'on avait peur du souffle des bombardements. Et puis à côté, le bureau du colonel Roll. Et donc il s'est installé ici avec son état-major. Donc tout le monde était rassemblé et pouvait suivre, heure par heure, tout ce qui se passait dans Paris. Il y avait des porteurs de messages disant « il se passe ceci au Batignolles, il se passe cela dans le sud de Paris ». Mais c'est un moment vraiment de frémissement de la population parisienne. Hein. 4 ans d'occupation. N'avoir rien à manger. Au mois d'août, il n'y avait plus rien à Paris. Il n'y avait que le téléphone qui fonctionnait. Plus d'électricité, plus de gaz, plus rien.
Finalement, le 25 août 1944, les forces alliées entrent dans Paris, les Allemands capitulent. Le lendemain, le général de Gaulle victorieux descend les Champs-Élysées, mais quelques heures plus tard, alors que tout semble terminé, Paris est bombardé par les Allemands. Il faudra attendre 9 mois avant que la fin de la guerre soit signée.
Reportage de l'Ordre d'Autriche pour Europe 1 à propos de ce nouveau musée de la Libération qui ouvrira donc sous la place d'Enfer Rochereau le 25 août prochain.
Et à 7h10, on s'intéresse au sport maintenant avec Axel.
Axel, en Ligue 1 de football, Monaco sort enfin de la zone rouge.
Oui, même imparfaite, la victoire des footballeurs monégasques contre les Nantais hier soir confirme que le retour aux commandes de l'entraîneur Leonardo Jardim est une bonne chose. Grâce à cette victoire 1-0, l'ASM sort de la zone rouge, autrement dit de la zone de relégation. Autre match disputé hier soir, Angers-Nice. Angers qui a obtenu son plus large succès de la saison en battant 3-0 à les Aiglons niçois. L'occasion pour Stéphane Moulin, l'entraîneur angevin, de dire haut et fort que non, son club n'est pas en danger de relégation.
Aujourd'hui, les 13 derniers matchs championnats, on a perdu deux fois. Donc comme quoi, on n'est quand même pas une équipe qui était à l'agonie ou à la ramasse. Deux défaites sur 13, moi je signe tout de suite pour faire ça sur les 13 prochains matchs.
À l'entraîneur d'Angers avec Loïc Folliot. Angers qui est ce matin 12e du classement dans le ventre mou du championnat, comme on dit.
Et plein soleil à Marseille, dans le ciel, parce que la météo est ultra favorable. Mais c'est aussi avec ce titre que le journal L'Équipe salue la troisième victoire d'affilée de l'OM.
Mario Balotelli a inscrit l'un des deux buts de la victoire marseillaise face à Amiens. C'est la première fois de la saison que l'OM gagne trois matchs de suite. Le premier but a été marqué par Florian Thauvin, qui a célébré ce but de façon originale, Bernard. L'international français a fait semblant d'avoir un claquage, ce qui a d'ailleurs inquiété son président. Florian Thauvin s'en explique au micro de Yann Théraud.
Mais en fait, comme vous l'avez vu la semaine dernière, on est rentré en bus, donc on a eu le temps de discuter et de rigoler. C'est une vidéo qu'on a vue sur Instagram, un joueur qui a tiré un penalty et il a fait cette célébration. Et comme ça nous a tous fait rire dans le bus la semaine dernière, on a dit qu'on le ferait si on marquait un but aujourd'hui, et c'est ce qui a été fait.
Voilà, Florian Thauvin qui donc célèbre ses buts maintenant en mimant un claquage.
Qu'est-ce qu'ils sont drôles, ces footballeurs.
Les autres matchs de cette 25e journée de Ligue 1 aujourd'hui, il y en a beaucoup. Hein. À 15h, Bordeaux-Toulouse, Caen-Strasbourg, Lille-Montpellier, à 17h, Reims-Rennes et à 21h, Saint-Etienne-PSG.
Et cette question maintenant, est-ce qu'une médaille française pourrait clore les mondiaux de ski alpin en Suède ?
C'est possible. Le slalom masculin a lieu aujourd'hui, première manche à 11h. Si l'Autrichien Marcel Hirscher fait figure de favori, hein, puisqu'il a remporté 5 des 7 slaloms disputés cette saison en Coupe du Monde, le Français Clément Noël fait office de très sérieux outsider, puisque c'est lui qui a gagné les deux autres slaloms de la saison. Quel est le secret pour s'imposer ? Écoutez-le au micro de Romain Libardi.
Le secret, c'est d'aller vite, mais en fonction de la manière de skier de chacun, ça peut passer par différents moyens, différents chemins. Moi, je sais qu'il faudra que je sois assez calme, qu'il faudra que je sois assez fluide. C'est sûr qu'au mois de janvier, on a l'habitude des pistes très difficiles. Là, ce sera moins difficile, mais en fonction de la neige et du tracé, ça peut le devenir. Donc il faudra, dans tous les cas, y aller à fond. Et puis, il faudra qu'on s'adapte bien, mais ce sera pour tout le monde pareil. Donc, pas de souci.
Voilà, vous avez retenu le secret, Bernard. Pour remporter un slalom, il faut aller vite. Autre Français qui peut espérer un podium lors de ce slalom masculin, Alexis Pinturo, déjà deux fois médaillé lors de ses championnats du monde en Suède. Chez ces dames, l'américaine Michaela Schifrin a remporté son 4e titre d'affilée en slalom hier. Et puis même sans Martin Fourcade, les Français montent sur la plus haute marche du podium en biathlon. Là, hier, Quentin Fillon-Maillet a gagné la poursuite de Salt Lake City. Simon Détieux a fini 3e de cette épreuve de Coupe du Monde aux États-Unis.
Je me permets, si vous le voulez bien, de rajouter un mot de rugby de top 14, tout de même, parce que Perpignan, qui avait quand même fait 15 défaites d'affilée, a gagné enfin hier dans le top 14 sa première victoire de la saison, et pas contre n'importe qui, sur la pelouse de Montpellier, 28-10. Donc félicitations aux Catalans. Merci beaucoup, à tout à l'heure pour votre prochain journal, donc qui sera à 8h.
Il est 7h15 et vous écoutez Europe 1.